Écho d'économie.
Rééquilibrage du contrat 6 communes. Les 7 milliards récupérés ne sont pas un prêt à rembourser. Et puis grâce à la renégociation de ce contrat, le barrage de Boussanga dans le Lualaba est désormais une cogestion entre la partie chinoise et l'État congolais. Précision de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, que vous entendrez tout à l'heure. Dans cette émission, nous irons également à la découverte de la cité de Lufu dans le Congo central. Le marché chez Kelabrit est devenu depuis quelques années la porte par laquelle l'industrie angolaise déverse ses produits sur le marché congolais. Bienvenue à tous. Cinquième jour, c'est lundi, de la ville morte décrétée par la Fédération des entreprises du Congo à Kalemie. Toutes les activités commerciales sont à l'arrêt, excepté les pharmacies et les stations-service qui ont repris dimanche. Les pourparlers se poursuivent entre la FEC et le gouvernement du Tanganyika pour trouver une solution. Pour rappel, les opérateurs économiques s'insurgent, entre autres, contre la tracasserie au port de Kalemie. L'IGF éclaire davantage l'opinion sur les rééquilibrages du contrat 6 communes. Les 7 milliards récupérés grâce au rééquilibrage du contrat 6 communes ne sont pas un prêt à rembourser. C'est le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, qui l'a dit dans une émission spéciale au Capi Service, dont il était l'invité ce lundi.
Je précise que c'est de l'argent que nous tirons du projet pour financer les routes et personne ne va le rembourser. Et dans le déblocage de ces fonds, initialement, on était autour de 624 millions, mais pour 2024, donc l'enveloppe pourrait être autour de 800 millions de dollars américains provenant de ces projets qui sera affecté aux routes. Donc les ministères des ITP, l'agence de suivi des projets sino-congolais, ainsi que la CGT, sont en train de travailler pour sélectionner les projets des routes qui seront lancés. Les participants aux négociations ont voulu assez que tout cet argent, les 7 milliards, soit mis dans les routes nationales, de manière à ce qu'on puisse faciliter l'évaluation tout d'abord et qu'il y ait visibilité.
Autre victoire de la renégociation du contrat 6 communes, c'est le fait que le barrage de Boussanga dans le Lualaba est désormais une cogestion entre la partie chinoise et l'État congolais. En effet, selon l'IGF, quelques individus détenaient les parts au détriment de la République dans l'ancienne convention 6 communes. Écoutez, Jules Alinguete.
Il y a la société Siko Hydro qui gère les barrages de Boussanga. Au Katanga, au Grand Katanga, Lualaba, c'est au fait un barrage aujourd'hui qui fonctionne très bien, qui fournit de l'électricité aux miniers. Ces barrages avaient été créés avec les fonds provenant de Siko mines. Mais il avait été constaté quand nous avions fait l'évaluation, c'est que ces barrages appartenaient à la partie chinoise et à quelques Congolais non identifiés. En réalité, ce sont des Congolais qui ont signé la convention Siko commune en 2008 et qui se sont fait rétribuer par la participation dans ces barrages. Et finalement, qu'est-ce qui a été fait au cours des négociations? Les barrages est redevenu propriété de la partie chinoise et de la République démocratique du Congo. Donc, il y a co-gestion aujourd'hui au niveau de ces barrages. La partie chinoise détient désormais 60% des participations au sein de cette société, au sein du barrage, et la RDC détient 40%. Pour votre information, les barrages produisent aujourd'hui autour de 100 millions de dollars en termes de recettes par an et c'est très important pour notre pays.
Notez que l'IGF a précisé que la renégociation du contrat 6 communes s'est déroulée en 9 mois. La partie congolaise était représentée par la présidence, 6 membres du gouvernement, des responsables de services étatiques ainsi que l'IGF. En Ituri, l'entreprise GreenTech Energy est dotée d'environ 30 tonnes de matériel électrique qui sont arrivées le week-end à Bounia pour desservir la population de cette province en électricité. Ces matériels vont servir à la distribution du courant électrique dans la ville de Bounia où plusieurs quartiers ne sont pas alimentés en électricité. Selon cette compagnie, c'est en partenariat avec la société minière de Kilomoto Sokimo, entreprise du portefeuille de l'État qui gère la centrale hydroélectrique de Boudana à 12 km de Bounia. Un autre lot de matériel est en route dans le cadre de ce projet. Le marché transfrontalier de Lufu, espace commercial situé dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central, est devenu depuis quelques années la porte par laquelle l'industrie angolaise déverse ses produits sur le marché congolais. Radio Okapi vous propose une série de reportages sur l'agglomération de Lufu qui abrite ce marché transfrontalier. Pour commencer, voici la carte postale de cette agglomération que nous propose Daniel Tambizoni qui est sur place.
La RDC et l'Angola sont séparées par le pont d'une quinzaine de mètres jeté sur la rivière Lufu. C'est par ce pont que se font l'import et l'export des marchandises entre les deux pays. Luva, c'est le nom du village côté angolais et Lufu, le village côté congolais. Pas de données claires sur l'estimation de la population et moins sur la superficie de l'entité, selon les chefs de l'agglomération. Mais ce que l'on sait, Lufu se situe dans le territoire de Songololo, en province du Congo central. La superficie du territoire de Songololo est de 8190 km², avec une population estimée à 253 686 habitants pour 31 habitants au kilomètre carré, selon les estimations de 2016. L'agglomération de Lufu, ce grand centre commercial n'a qu'une seule voie asphaltée, la RN15, qui part de la route nationale numéro 1 jusqu'à la frontière à la douane. Donc, sa principale activité est le commerce. Les motos, bi et tricycles sont les principaux moyens de transport des personnes et des marchandises à l'intérieur même de Lufu. Les taxis et taxibus assurent le transport de Lufu vers l'extérieur de l'entité. Pas d'école publique, pas d'électricité de la SNEL, pas non plus d'eau de la Régie des Eaux, pas de structure médicale de l'État malgré la démographie galopante de l'entité. Les installations de la DGDA et la DGM à la frontière sont les plus beaux bâtiments modernes de Lufu. À côté de cela, quelques immeubles construits et d'autres encore en chantier sont des propriétés des agents de la douane, des déclarants en douane et des agents de la Direction Générale des Migrations et autres services opérant à la frontière. Lufu, avec son marché transfrontalier bâti sur 13,5 hectares, aujourd'hui devenu célèbre, avait timidement commencé les échanges commerciaux entre les deux peuples dans les années 80 par le troc, c'est-à-dire échange de marchandises sans intervention de la monnaie. C'est vers la fin des années 90, qui coïncide avec la fin de la guerre civile en Angola, que la monnaie intervient dans les échanges commerciaux. Depuis cette époque jusqu'en 2008-2009, c'est la RDC qui nourrissait le peuple angolais le long de la frontière. Quelques années plus tard, et grâce à son organisation industrielle après la guerre, c'est l'Angola qui offre presque tout depuis une décennie maintenant, les produits vivriers et manufacturés à la RDC. Lufu agglomération est ainsi devenue célèbre à cause de son marché transfrontalier qui attire les commerçants de Boma, de Matadi, Kinshasa et même ceux des ex-provinces du Grand Bandundu et les commerçants de l'Angola qui viennent nombreux y exercer le commerce.
Écho d'économie. Il s'est tenu ce lundi à Kinshasa un atelier sur le statut de l'opérateur économique agréé, organisé conjointement par la Direction générale des douanes et accises ainsi que l'Organisation mondiale de la douane. Les experts de l'OMD qui ont partagé leur expérience avec ceux de la douane congolaise sur ces sujets. Qui peut accéder au statut d'opérateur économique agréé? Sous quelles conditions? Nous avons posé ces questions au DG de la Direction générale des douanes et accises, Bernard Kabessé, à l'issue de la cérémonie de lancement. Suivez.
Un opérateur économique agréé, c'est un opérateur qui, du fait de l'agrément par la douane, à l'issue de la rencontre de certains critères d'éligibilité. Et cet opérateur économique agréé bénéficiera, n'est-ce pas? Vous savez, nous sommes une institution fiscale. Et dans le cadre des missions que nous exerçons, nous avons une mission fiscale importante. Et donc la mission fiscale implique les contrôles. Mais nous pouvons décaler les contrôles en fonction du critère confiance. La confiance s'établit lorsque l'opérateur économique remplit certains critères, lorsque l'opérateur économique a dans ses activités des exigences de transparence, des exigences de prévisibilité et que l'administration à l'avance connaît plus ou moins, n'est-ce pas, le caractère sérieux de son activité. Et donc, cet opérateur économique pourra avoir des avantages dans le cadre des contrôles. Au lieu d'avoir systématiquement des contrôles intrusifs, on pourrait avoir des contrôles pas tout à fait physiques, mais des contrôles dans sa comptabilité, dans ses écritures comptables et financières. Ça va donner une impulsion de célérité dans ces activités. Vous savez, le temps de passage en douane, c'est un facteur important dans la rentabilité de l'entreprise. Et lorsqu'on décale les contrôles, bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais l'idée de l'opérateur économique, c'est de trouver un équilibre entre les exigences de contrôle et les exigences de facilitation.
Et quels sont ces critères pour accéder à ce statut ?
Bon, d'abord, vous avez entendu dans mon introduction, j'ai parlé de la solvabilité financière. Je parle de la transparence, de la prévisibilité, d'une documentation commerciale saine. Sur le plan tout à fait technique, de l'absence de contentieux pendant 3 ans. Les critères vont être précisés. Donc il y a toute une batterie de critères, il y en a beaucoup, qui permettent à l'administration de pouvoir ou pas agréer quelqu'un. Si vous n'avez pas une comptabilité saine, si vous n'avez pas une documentation commerciale susceptible d'être consultée par l'administration, si les dernières années vous avez aligné des dizaines de litiges avec l'administration, vous pensez bien que vous n'êtes pas dans les critères d'éligibilité.
Et quels sont les avantages que les parties prenantes y tirent pour l'opérateur? On sait qu'il y a déjà cette célérité dans le contrôle, mais pour l'administration douanière, quels sont les avantages?
D'abord, l'opérateur économique doit être transparent. Vous savez, sur le cordon douanier, la douane traite des marchandises. Les marchandises sont couvertes par une documentation commerciale. C'est notamment les factures, les bons de commande, les documents de fret. S'il y a une transparence de ce côté-là, la douane capte déjà en amont l'information nécessaire pour pouvoir mobiliser les ressources publiques. Et donc c'est déjà un facteur important, d'abord pour la douane, avec la probabilité d'avoir une incidence avancée sur les recettes. Et en ce qui concerne l'opérateur économique, je vous ai dit que le temps de passage en douane est un temps important. Vous avez des opérateurs qui travaillent à flux tendu, ça veut dire qu'ils ne font pas de stop, mais les marchandises doivent passer assez rapidement. Et donc en résumé, il faut un équilibre entre les exigences de contrôle et les exigences de facilitation.
Monsieur le DG, je vous remercie.
Merci, merci.
C'est par ici que prend fin Écho d'économie de ce soir. Alain Goy est à la prise de son, Hervé Voka et Dieudonné Nyangassa à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.